Merci beaucoup pour toutes ces présentations sur des aspects finalement assez variés, à la fois dans les thèmes et dans les techniques utilisées, sur des aspects médicaux, paramédicaux, hospitaliers, extra-hospitaliers, sur des aspects cognitifs simples avec de l'e-learning ou sur des choses plus complexes avec des niveaux d'apprentissage probablement supérieurs avec les serious games. On va probablement profiter des quelques minutes qui nous restent si vous avez des questions pour les différents intervenants.
Merci. Jean-Pierre Grangier, quel idéal. Plus que des questions, c'est une remarque et une réflexion que nous avons. Nous avons essayé de travailler aussi sur du e-learning en médecine. Alors, tout ce que vous avez présenté, c'est du serious game. Je pense qu'il faudrait rajouter un autre serious. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans des situations. Toutes les situations présentées sont des situations critiques où, globalement, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est on doit faire ça et point barre. En médecine, il y a des moments où on est confronté à des situations un petit peu plus complexes, type qu'est-ce que fait un professionnel de santé face à une tension d'un patient qui est à 140. 140, vous allez avoir la moitié de vos néphrologues, enfin, nous on travaille en néphrologie, qui vont vous dire je fais rien, on attend, on voit. Et puis l'autre moitié qui va dire déjà 140, on est au-dessus des normes préconisées par la HAS. Il va donc falloir avoir une intervention. Et toutes ces problématiques-là d'e-learning et de travail sur l'apprentissage et aussi l'apprentissage de gens comme nous qui seront, comme ça a été dit ce matin, des infirmières télémédecine, c'est de savoir qu'il y a une uniformisation des pratiques et notamment des pratiques médicales. Et ça pose vraiment de gros problèmes parce qu'on voit que les médecins... Alors, quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec une tension à 180 ou à 200, ça, ils savent tous répondre, ils ont tous la même réponse. Par contre, il y a toute une partie de frange, et ben, c'est pas aussi simple que ça, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, c'était une remarque par rapport à ce que vous avez fait.
Je vais vous laisser répondre, mais juste, la médecine est un art qui est en train de devenir une science, donc on approche des niveaux de précision et de protocolisation qui vont permettre de résoudre ces problèmes.
Je veux bien répondre à votre remarque parce qu'elle est tout à fait pertinente. Vous avez absolument raison. Nous, quand on s'est confronté au problème de la surveillance en pédiatrie, on a vu qu'effectivement, il y a des pratiques dans le même établissement qui étaient différentes et des réactivités différentes selon les normes, justement. Donc, avant de mettre en place le e-learning, l'objectif était de mettre en place une politique commune de surveillance, c'est-à-dire définir ensemble tous les médecins... devaient se mettre d'accord sur quelle était la limite supérieure acceptable pour telle ou telle situation et quelle était la conduite à tenir par les professionnels de santé autour de ces enfants. Donc effectivement, ça a été très poussé, c'était un travail de plus d'un an en amont pour essayer de mettre en place un référentiel commun. Mais vous avez raison, c'est vrai que ça pose un problème et c'est pour ça que c'est pas forcément toujours transposable d'un lieu à l'autre et que c'est une grosse difficulté et que chacun a sa manière de soigner, bien qu'il y ait des normes sur lesquelles on est d'accord. Voilà. Effectivement, c'est une difficulté. Ouais. Oui. Si un consensus médical, c'est beaucoup plus facile. C'est ça la base, hein. C'est au départ, c'est vrai. Alors voilà, et toute la difficulté est là.
Et probablement, à mon sens, le développement de nouveaux outils comme ça, il se fera avec une valeur ajoutée plus importante dans des thématiques ou des disciplines ou des secteurs où il y a justement des guidelines et des protocoles qui sont déjà formalisés, acceptés et mis en pratique. Voilà. Où là, il n'y a pas de question sur la conduite à tenir. Bon, il y a quand même beaucoup de disciplines qui évoluent vers ça et dans lesquelles on peut trouver, Pulse est un bon exemple, des choses qu'on arrive à catégoriser dans une prise en charge typique, etc. L'autre aspect aussi qui est intéressant, c'est l'aspect formation initiale versus formation continue. Et la méthode de raisonnement, de diagnostic et le chemin pour arriver à un diagnostic n'est pas le même si on prend des jeunes internes ou des vieux médecins. Et l'impact aussi que peut avoir ce type d'outil dans le façonnement du raisonnement est très différent en fonction de la culture et de l'âge des médecins ou des infirmières à qui vous adressez. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces présentations ?
Pascal Mévial, cadre de santé à l'UCI de Clermont-Ferrand. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, Je pense que les serious games et le learning ne sont pas une fin en soi. On a à plusieurs reprises depuis ce matin insisté sur le présentiel et sur le fait qu'on était toujours au service de l'apprenant avec l'aide quand même du formateur et des formateurs. Et notamment en ce qui concerne Pulse, que M. Leleu nous a présenté tout à l'heure, je voudrais savoir si, justement, avec l'utilisation de ce logiciel, est prévu un tutorat médical ou paramédical, enfin peu importe, mais un tutorat pour aider justement l'apprenant à travailler avec ça et faire une espèce de débriefing pour savoir là où il a fait une erreur, là où il pourrait corriger les choses.
Alors, je réponds à votre question sur deux points. Alors, d'une part, dans Pulse, il y a donc un système de tutoriel, comme vous l'évoquez, qui permet à l'apprenant de maîtriser, l'intervention. On a vu la vidéo qui a été faite avec Alexandre Mignon, où en 10 minutes, un quart d'heure, n'importe quelle personne, sachant utiliser un ordinateur, est capable de le faire. Donc ça, c'est plutôt sur la pratique de l'interface, et après, le tutoriel sur les différentes interactions possibles. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que aujourd'hui, il ne faut pas séparer le mode à distance ou le e-learning par rapport au présentiel. On parle beaucoup de ce qu'on appelle le blended learning, donc mélanger, le présentiel et à distance. Aujourd'hui, l'ensemble des serious games que nous développons sont fortement orientés vers ce mode, notamment une formation qui a été faite pour des anapathes dans le cadre d'analyse de tumeurs, où le serious game est un support pédagogique pendant toute une journée de formation. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. La formation à distance dans le cadre de serious game est possible, notamment lorsque ça touche le grand public ou des patients. Mais c'est pour revenir pour Pulse, il est évident que l'apprenant a un rôle essentiel avec le simulateur, mais le formateur, notamment dans ces phases de débriefing, permet, grâce aux erreurs faites par l'étudiant ou le professionnel, eh bien de débriefer. Donc ça renforce le rôle du formateur. Donc les deux points sont vraiment essentiels entre la pratique, le fait d'être acteur, vous l'avez vu avec notamment un des professionnels, d'être complètement immergé grâce au serious game, et ensuite on revient à la réalité avec un débriefing lié avec le formateur. Donc je partage votre point de vue.
Plusieurs présentations ont donné comme gain, on va dire, pas de perte de ressources, pas de déplacement pour les salariés, pas d'absence au travail, et surtout, ça se fait sur le temps personnel. Moi, je m'interroge là-dessus, parce que dans les établissements, il y a, par exemple, hospitaliers, il y a déjà un flux tendu pour les personnels, il n'y a pas de temps d'absence pour la formation, il y en a de moins en moins, et on a obligation d'avoir la formation continue, notamment avec les derniers textes parus sur la formation. Alors, est-ce que ces outils-là ne vont pas être un moyen de détourner au niveau des établissements de santé, le temps nécessaire et absolument indispensable à la formation pris sur le temps de travail dans les budgets, par exemple, hospitaliers?
Alors, c'est une très très bonne remarque. Je vous laisserai répondre juste après, mais pour prendre l'exemple de l'aéronautique qui a des programmes de formation, notamment de simulation extrêmement avancés, on considère qu'il faut 110% de personnel pour pouvoir assurer le fonctionnement des vols réguliers et puis la formation permanente des pilotes, des personnels navigants, etc. Sur l'hôpital, on est probablement dans les mêmes ratios. Par contre, on a des contraintes de temps, de personnel, de moyens, etc., qui sont très très serrées effectivement. Je pense qu'un des objectifs et une des approches de ces nouvelles méthodes, c'est effectivement d'arriver à réduire dans une certaine mesure peut-être les coûts, mais au moins le temps nécessaire à la formation. Si on prend par exemple l'exemple d'étudiants en médecine qui vont au cours de leur cursus voir un certain nombre de situations, sur des simulateurs comme des serious games ou sur de l'e-learning, on peut en une heure ou deux heures arriver à leur donner un panorama de 25 patients qu'ils n'auraient pas vu en une matinée entière. Voilà, donc c'est un des aspects, je pense, et un des enjeux de la création de ces nouvelles technologies.
Je vais reprendre peut-être un peu sur la question. C'est une question de management. C'est pas les outils qui créent ce problème-là. C'est le problème de la disponibilité des personnels au moment de la formation ou pas. Ou est-ce que ça se fait en dehors du temps de travail ou dans le temps de travail? C'est une question de management. C'est pas une question d'outils. C'est pas les outils qui créent ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a une facilité. On le voit bien avec les PDA, avec les iPads, etc. On est de plus en plus sollicité à toute heure. Mais c'est un choix. En même temps, c'est un choix ou pas un choix. Enfin voilà. Je crois que c'est pas les outils qui choisissent de ça. C'est nous qui devons le choisir en termes de management, quoi.
Oui, moi je rebondis sur ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un choix au départ de favoriser ou pas la formation de ces personnels, quel que soit le moyen qu'on emploie, d'autant qu'il y a des tableaux de bord qui vous permettent de comptabiliser le temps passé sur ce type d'outil, que ce soit en dehors ou en interne, dans le temps de son service. Donc ça, c'est faisable, et c'était même un préalable obligatoire, parce que les syndicats, évidemment, sont montés au créneau. Pensez bien, quand on installe un e-learning dans un établissement de santé, on passe au CHSCT, et on fait valider, en quelque sorte, hein, des organisations de travail un peu différentes. Donc ce temps de travail, enfin c'est du temps de travail, cette formation, donc elle est comptabilisée. S'il passe une demi-heure d'affilée, eh bien sa demi-heure est comptabilisée et elle revient ensuite sur le tableau de bord du DRH ou du responsable de formation qui a l'ensemble de son suivi sur les personnels, sur la formation des personnels. Donc si effectivement on le fait à l'extérieur du temps du lieu de travail, exemple, nous, notre stratégie de formation des intérimaires, par exemple, qui peut se faire à domicile, elle est comptabilisée par la boîte d'intérim en temps de formation de son personnel. Donc ça, ce sont des systèmes qui l'intègrent, parce que c'est une donnée essentielle. Sinon, vous perdez en motivation, puis c'est pas logique. C'est pas logique, c'est de la formation continue. Alors quand il s'agit de formation initiale, ça passe, hein, c'est dans le temps de la formation scolaire, on va dire, mais dans le temps d'une formation continue, il faut absolument comptabiliser ces temps-là. C'est obligatoire. Donc rassurez-vous là-dessus, c'est une donnée qui est prise en compte, sinon ça ne serait pas accepté dans les établissements de santé. Je vous le dis par expérience, parce que ça fait 7 ans qu'on travaille avec les établissements de santé. Si on ne comptabilise pas ce temps-là, c'est d'ailleurs une des premières questions qu'on nous pose. Et au CHSCT, je peux vous dire que les syndicats sont les premiers à amener cet argument, qui est tout à fait légitime et auquel on répond par notre technologie, enfin derrière nos formations, vous avez toujours des tableaux de bord, vous avez toujours des suivis extrêmement précis. Les identifiants nous permettent de suivre un apprenant du début à la fin de son apprentissage. Voilà, c'était ça.
Merci. Oui, pour compléter, en fait, c'est vrai que nous, l'exemple que nous avons pris, c'est complètement l'exemple inverse, c'est-à-dire que nous sommes d'abord intéressés à un public de professionnels indépendants, donc libéraux, pour qui, effectivement, partir en formation, c'est une perte de ressources complète. Donc, les formations se font en général le week-end, donc vous imaginez un petit peu, pour la vie de famille, c'est un peu particulier. Là, l'avantage, c'est que la formation est possible à n'importe quel moment. Donc, c'est pour ça que je vous prenais l'exemple du soir ou du week-end, mais à des temps qui vont être découpés, qui vont être gérés d'une manière beaucoup plus souple. Donc, c'est vrai qu'on le voit bien. En fait, c'est simplement une évolution de la pédagogie à travers différents outils. Donc, c'est une extension des offres de formation de manière complémentaire. C'est pour ça que les différents supports de formation sont certainement adossés les uns aux autres. Mais c'est avant tout une modification de l'accès à la formation. Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, quel que soit le mode d'exercice, on est en salariat, il y a des contraintes particulières. Effectivement, c'est plus du management au niveau du temps en général, par rapport aux différentes obligations. Sur d'autres modes d'exercice, donc l'exercice ambulatoire, celui dont on a parlé, ce sont d'autres obligations. Et c'est pour ça qu'on avait pris, nous, un peu l'exemple aussi, d'une formation qui va devenir obligatoire pour tous les professionnels de santé libéraux à partir de 2012. Je vous laisse imaginer les contraintes que ça peut représenter, parce qu'on a donc les deux exemples. L'exemple du professionnel qui travaille dans un cabinet où il y a plusieurs personnes, donc il peut éventuellement se permettre de s'absenter. Mais moi, je pense aussi au confrère ou à la consœur qui est seul dans son cabinet. Et s'absenter, c'est pas possible, parce que d'un côté, déontologiquement, et c'est normal, il a une obligation de continuité de soins. Comment il fait pour aller en formation? Très difficile. Là, effectivement, dans certains cas, s'il a une obligation, il pourra accéder à sa formation d'une manière plus souple. Donc, c'est en fait dans ce sens-là où il faut effectivement penser que les nouveaux outils, quels qu'ils soient, permettent d'accéder à la formation de manière plus simple et peut-être plus souple.
Et donc probablement d'optimiser le temps passé à la formation une fois qu'on a fait le choix de dédier du temps à la formation pour des personnels de santé.